tout de suite le journal.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Nouveau contretemps dans les négociations sur le Brexit. La première ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker n'ont pas réussi à conclure un premier accord aujourd'hui à Bruxelles. Parmi les points d'achoppement, la facture à régler par le Royaume-Uni et la frontière irlandaise en Ulster. Nous en parlerons avec notre invitée Elvire Fabry, chercheure à l'Institut Jacques Delors. En Allemagne, le SPD accepte de discuter avec Angela Merkel pour former une nouvelle coalition à Berlin. La correspondance de Cyril Sauvageau dans ce journal. Vague nationaliste en Corse, plus de 45% au premier tour des territoriales hier. En face, les adversaires de Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni n'arrivent pas à faire front commun. Les négociations ont échoué aujourd'hui. Nous ferons le point avec Cyril Graziani. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, avait qualifié cette journée de lundi de date limite absolue pour conclure un accord avant le sommet européen du 15 décembre. Eh bien, c'est raté. Le Brexit va prendre du retard puisque Theresa May et Jean-Claude Juncker ont reconnu aujourd'hui à Bruxelles que cet accord était prématuré. Les deux parties refusent de parler d'échec. Le président de la Commission européenne espère trouver une solution dans le courant de la semaine. Quant à la première ministre britannique, elle se contente d'évoquer, je cite, quelques différences qui demandent davantage de négociations et de consultations. Quant à Dickinson, vous avez suivi ses tractations aujourd'hui à Bruxelles. La question de la facture à régler par le Royaume-Uni fait partie des points délicats.
Eh bien, tout au long de cette journée, effectivement bien remplie et servie par une certaine dramatisation voulue, les uns et les autres auront soufflé le chaud et le froid. Sur la facture pour solde de tout compte, en effet, l'on bute encore sur le volet relatif aux engagements souscrits par Londres au-delà de la période actuelle de programmation, laquelle prend fin le 31 décembre 2020. Il s'agit, parmi bien d'autres têtes de chapitre, de l'aide au développement des pays d'Afrique, de programmes de recherche scientifique ou des pensions de retraite des personnels des institutions européennes. Et on n'oublie pas ici de facturer à Theresa May le coût non négligeable du déménagement vers le continent des deux agences européennes jusqu'ici basées à Londres. Fortement inspiré par des fuites organisées par le gouvernement de Sa Majesté, la presse britannique avait annoncé il y a quelques jours un accord se situant entre 45 et 55 milliards d'euros. On peut penser ce soir que la somme définitive sera supérieure à 60 milliards, mais bien loin des 100 milliards évoqués naguère par certaines sources du côté européen.
Quentin Dickinson, merci. Il y a un autre point de blocage ce soir, la frontière irlandaise. Le Brexit va-t-il entraîner le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande, qui elle est membre de l'Union européenne? Le DUP, le parti unioniste nord-irlandais, refuse que l'Ulster hérite d'un statut spécial qui l'isolerait du Royaume-Uni. Or, Theresa May a besoin du DUP pour gouverner à Londres. Invité de ce journal, Elvire Fabry, chercheur senior à l'Institut Jacques Delors, spécialiste des questions relatives à l'action extérieure de l'Union européenne. Bonsoir.
Bonsoir.
Elvire Fabry, Jean-Claude Juncker refuse de parler d'échec. Peut-on pour autant parler d'une négociation qui progresse entre Londres et Bruxelles ?
Oui, ça progresse, parce qu'en effet, comme ça vient d'être mentionné, toutes ces dernières semaines, on avait les yeux rivés et toute l'attention concentrée sur l'enjeu de la fameuse facture britannique, de le versement le fait que le Royaume-Uni devait honorer ses engagements financiers qu'il avait comme membre de l'Union européenne. Et là, on voit le curseur se déplacer au-delà de la question aussi du statut des citoyens sur le troisième volet de négociation de ce dossier de l'exit du Royaume-Uni, de la sortie de l'Union européenne, qui est la question de la frontière irlandaise. Actuellement, on a entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande un espace de libre circulation qui date de l'indépendance de l'Irlande, qui fait que les citoyens, les animaux, les biens peuvent circuler librement à travers les pâturages, à travers tout cet espace, et que la sortie du Royaume-Uni, à la fois du marché unique et de l'union douanière, telle que Theresa May l'a annoncé déjà il y a quelques mois, allait signifier le rétablissement d'une frontière, donc de contrôle, qui sont à la fois un préjudice très important pour l'économie des deux côtés et pour la société irlandaise dans son ensemble de manière beaucoup plus profonde et dramatique, parce que sur cet espace de libre circulation repose l'accord du Good Friday Agreement de 1998, qui avait mis un terme au conflit sanglant entre les protestants du Nord et les catholiques du Sud.
Et donc là, il n'est pas question d'un retour aux frontières physiques, il y a un accord là-dessus ?
L'idée, c'est d'essayer de diminuer l'impact possible de ces contrôles. Et donc la proposition qui semble avoir étudié, telle qu'on l'a vu fuiter par un média irlandais, RTE, en début de journée, ce serait de repousser la frontière et ses contrôles, la frontière entre les Irlande du Nord et la République d'Irlande, aux frontières maritimes, qui est une proposition qu'avait fait Pascal Lamy il y a quelques semaines à Dublin, et qui consisterait à donner à l'Irlande du Nord le statut de Hong Kong et de Macao, qui appartiennent, qui relèvent du territoire chinois, mais qui ont un statut commercial spécifique, car il y aurait un alignement réglementaire de l'Irlande du Nord avec le reste de l'Union européenne.
Mais est-ce que vous pensez que les unionistes nord-irlandais vont accepter cette solution qui ferait tout de même de l'Ulster une province avec un statut un peu spécial au sein du Royaume-Uni ?
Ah ben, ils se sont déjà fait entendre, c'est-à-dire qu'on a eu une réaction, on a eu une réaction très forte cet après-midi et très nette du leader du DUP, disant un des engagements sur lequel Theresa May avait été très claire, avait été la préservation de l'intégrité du territoire britannique, et pour eux, ça n'est pas acceptable. D'autant plus que dans la foulée, il y a eu des réactions du maire de Londres, Sadiq Khan, du chef du Parti national écossais, Nicola Sturgeon, et y compris même du Premier ministre du Pays de Galles, qui eux-mêmes disent à ce moment-là, si l'Irlande du Nord a ce statut spécifique, nous on veut en être également. On veut aussi pouvoir se maintenir dans le marché unique et l'union douanière.
Donc il y a un blocage ce soir.
Oui, non, on est en train de toucher à ce qui est véritablement le nerf sensible du Brexit, parce qu'il s'agit de savoir si le Royaume-Uni veut maintenir un alignement réglementaire avec l'Union européenne ou pas, et ça veut dire concéder une part de la souveraineté qu'il entendait retrouver à travers la sortie de l'Union européenne.
Très rapidement, Elvire Fabry, Theresa May est très contestée au sein même de son parti, le Parti conservateur. Est-ce que ça signifie que la Commission européenne est en position de force dans cette négociation sur le Brexit ?
C'est certain, c'est évident. Ne serait-ce que sur la partie financière, on voit bien que ce qui se jouait, c'était de pouvoir engager bien, de manière positive, les négociations sur l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et tout dépendait de la façon dont on se met d'accord d'abord sur la sortie. Alors même si sur la partie financière, il s'agit plus d'un exercice de comptabilité sur des engagements qui est préalable, ancien, quand même, il y a la Commission européenne est en position de force. Et puis sur ce qui est en ce qui concerne la suite, sur ce qui sera ce qui concernera les discussions de partenariat à venir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'enjeu de l'appartenance au marché unique européen est tel qu'on voit bien aujourd'hui que cet exercice de Brexit est presque un exercice de pédagogie positive sur les bénéfices de l'appartenance à l'Union européenne.
Elvire Fabry de l'Institut Jacques Delors, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le ministre portugais des Finances, Mario Centeno, nouveau président de l'Eurogroupe. Il a été élu par ses collègues de la zone euro face au libéral luxembourgeois Pierre Gramegna. Au Portugal, Mario Centeno fait partie d'un gouvernement de gauche, mais il n'a pas de filiation partisane. Il succédera à la mi-janvier au néerlandais Jeroen Dijsselbloem. Partons en Allemagne à présent pour évoquer cette issue possible dans la crise politique que traverse le pays. Le SPD accepte d'entamer des discussions avec les conservateurs d'Angela Merkel pour former une nouvelle GroKo, la Grande Coalition. Seuls les sociodémocrates peuvent éviter à la chancelière un retour aux urnes. Rappelons qu'il y a 15 jours, Angela Merkel avait échoué à former un gouvernement avec les libéraux et les verts. Cyril Sauvageau nous appelle de Berlin.
Cette fois, c'est officiel, Martin Schulz est prêt à discuter avec Angela Merkel. Après bien des atermoiements, le chef du SPD s'est mis d'accord avec l'état-major de son parti sur une série de revendications à mettre sur la table. Inspiré de son programme électoral, ce document fixe plusieurs objectifs prioritaires. Régulation du travail précaire, immigration avec le sujet épineux des regroupements familiaux pour les réfugiés et avenir de l'Union européenne. Les sociodémocrates plaident pour des investissements communs avec la France, mais ne prennent pas position position, en revanche, sur les projets d'Emmanuel Macron de réformer la zone euro, une base de travail pour entamer les pourparlers avec les conservateurs, sans doute à partir de la semaine prochaine, une toute première étape vers une grande coalition encore hypothétique, selon Martin Schulz.
Mais nous en sommes encore très loin. D'abord, nous allons demander le feu vert de nos délégués ce week-end au congrès du SPD pour pouvoir mener des discussions exploratoires. Ensuite, la direction du parti évaluera le résultat de ces premières discussions. Et si nous parvenons plus tard à quelque chose de concret, avec un contrat de coalition, alors il y aura un vote en interne. Ce seront les militants qui auront le dernier mot.
Autant dire qu'il n'y aura pas d'avancée concrète avant début 2018 et l'issue demeure incertaine. Les deux autres options, un gouvernement minoritaire ou des élections anticipées au printemps, sont toujours d'actualité car le SPD reste profondément divisé sur une alliance avec Angela Merkel. Les jeunes sociaux-démocrates ont lancé une pétition contre une nouvelle grande coalition qui a déjà recueilli plus de 10 000 signatures.
Cyril Sauvageau, correspondant de France Culture à Berlin. C'est un tournant dans la guerre civile qui ravage le Yémen. L'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh a été tué aujourd'hui par des miliciens houthis. Saleh était pourtant proche de cette milice chiite soutenue par l'Iran. Mais il y a quelques jours, il avait choisi de pactiser avec l'Arabie Saoudite qui intervient militairement au Yémen depuis mars 2015. Les précisions de Franck Madvon.
Les images laissent peu de place au doute. Des rebelles portent dans une couverture le corps sans vie d'un homme à moustache qui semble bien être Ali Abdallah Saleh, les yeux encore ouverts, le crâne en partie fendu. Saleh a dirigé le Yémen pendant 33 ans et jusqu'à aujourd'hui, il était difficile d'imaginer un avenir au pays sans qu'il y joue un rôle. Il était tombé en 2012 lors du printemps arabe, mais était redevenu incontournable en pactisant avec ses anciens ennemis, les rebelles houthis soutenus par l'Iran, face à l'Arabie Saoudite et ses alliés arabes. Ce camp, qui contrôle l'ouest du Yémen, dont la capitale Sanaa, s'est récemment fissuré. Et avant-hier, coup de théâtre, Saleh a carrément lâché les houthis et tendu la main à l'Arabie Saoudite. Les rebelles houthis y ont vu une grande trahison. Sanaa a été le théâtre de très violents combats ce week-end et Saleh a donc été victime aujourd'hui d'une embuscade alors qu'il tentait de fuir. C'est un tyran qui disparaît, mais sa mort risque fort d'entraîner un nouveau cycle de violence.
Franck Matevon, selon les derniers chiffres de l'ONU, au moins 7 millions de Yéménites ont besoin aujourd'hui d'une aide humanitaire d'urgence en raison notamment du blocus imposé par la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. En Corse, les nationalistes sont bien partis pour emporter les élections territoriales dimanche prochain. Hier, à l'issue du premier tour, la coalition de Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni a obtenu 45,36% des voix. Les deux listes de droite sont loin derrière, environ 15% pour le régionaliste Jean-Martin Mondoloni et un peu moins de 13% pour la candidate Les Républicains Valérie Bozzi. Deux listes qui ne fusionneront pas dimanche prochain. Les discussions aujourd'hui n'ont pas abouti. On fait le point sur les forces en présence. Au second tour en Corse avec vous, Cyril Graziani.
Et ce soir, c'est officiel, il y aura donc quatre listes sur la ligne de départ dimanche prochain. Les quatre qualifiés ont décidé de faire chambre à part. Un temps envisagé, un front républicain réunissant les deux têtes de liste de droite et celle de La République En Marche, eh bien ce front ne verra pas le jour. Une alliance qui paraissait sur le papier contre nature et au vu des résultats du premier tour, contre-productive. À eux trois, ils n'atteignaient même pas 40% par tir en ordre dispersé. C'est une sorte de dernier baroud d'honneur pour empêcher les nationalistes d'accroître considérablement le résultat dimanche prochain. Mais de remporter haut la main les territoriales, ça non, et de disposer d'une solide majorité dans la future assemblée qui verra le jour le 1er janvier, ça non plus. L'objectif de Gilles Simeoni, c'est de faire le score le plus élevé possible pour pouvoir peser dans la discussion qui va s'ouvrir avec Paris très très rapidement. S'ils écartent, en tout cas le futur président de la collectivité, l'hypothèse de l'indépendance, ils vont remettre sur la table leurs revendications, les mêmes depuis des années. Co-officialité de la langue corse, statut de résident, statut fiscal, amnistie pour les prisonniers dits politiques, des demandes restées vaines jusqu'à présent. Alors que peut faire Emmanuel Macron? Ne pas céder aux injonctions et en même temps ouvrir le dialogue sans opposer de fin de non-recevoir, avec un risque, renforcer la défiance des nationalistes corses et leur soutien à l'égard de ce que certains appellent déjà ici la France.
Cyril Graziani, merci. Le Parlement a définitivement adopté le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2018, 43 voix contre 17. Lors de l'ultime vote à l'Assemblée, la majorité LREM-Modem a voté le texte. Les autres groupes l'ont rejeté ou bien se sont abstenus. La météo demain, temps maussade sur la moitié nord avec quelques gouttes possibles sur le nord-ouest. Au sud, le soleil s'imposera rapidement, température maximale en légère hausse, 2 à 5 degrés sur le nord-est, 6 à 12 12 ailleurs, jusqu'à 15 degrés sur le littoral provençal. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.